Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans cet épisode d'Histoire de couple, le podcast qui parle de couple, d'amour et d'eau fraîche. Je suis Clémence, la rédactrice en chef du magazine Rocky, et je reçois régulièrement des couples pour parler d'eux et de leur histoire, sans guimauve ni cynisme. Comment se sont-ils rencontrés? À quoi ressemble leur quotidien? Et qu'est-ce qui les agace chez l'autre? Vous saurez presque tout à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur d'accueillir Cyril et Thomas. Merci à tous les deux d'être là.
Merci
de nous recevoir.
Alors, certains auditeurs ou auditrices te connaissent peut-être déjà, Cyril, et peut-être toi aussi, Thomas, puisque Cyril, tu as participé à la dernière saison de Koh-Lanta et tu es allé assez loin dans l'aventure, mais on va en reparler. Et du coup, Thomas, toi, on t'a aussi vu faire une apparition dans cette saison-là.
Exact. Et même le coup de téléphone aussi.
Et le coup de téléphone, c'est vrai. Alors, on va en reparler, mais pour commencer, j'aurais aimé que vous vous présentiez tous les deux, ce que vous faites dans la vie, votre âge.
Ben, je commence. Ouais. Alors, je suis Cyril, j'ai 38 ans, je suis designer à Paris, voilà, j'ai un métier créatif et je vis la vie parisienne.
Et moi, je suis Thomas, donc j'ai 34 ans, bientôt 35. Je travaille dans la communication, dans le secteur de la santé et donc je vis avec Cyril à Paris aussi.
Est-ce que vous pouvez raconter et me raconter, parce que je ne sais pas, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux?
Alors je vais commencer. On s'est rencontrés, c'était une rencontre 2.0, parce que c'était sur les réseaux, c'est même pas des réseaux sociaux, c'est des réseaux de rencontres. Donc, je crois que c'est assez courant maintenant. Et donc,
vous n'êtes pas les premiers.
Non, pas les premiers.
Mais c'était pas très romantique, notre première rencontre.
La première rencontre n'était pas très romantique. On s'est rencontrés, on a couché ensemble.
Vous étiez ni l'un ni l'autre dans l'optique d'avoir une relation suivie ou
pas du tout.
Dans quel état d'esprit vous étiez?
Pas à ce moment-là, parce qu'on ne s'est pas revus pendant un an. Ouais. Je te laisse raconter la suite.
Non, c'est vrai qu'on est arrivé par ce biais-là et on n'a pas repris contact après. Et au fur, je sais pas, un an après, on a commencé à se reparler peut-être sur le même réseau, à se dire qu'il fallait qu'on se revoie. Pourquoi pas? Et c'était l'idée, mais moi je suis parti à New York et je me suis fait agresser aux États-Unis. J'ai vécu un traumatisme un peu grave, que j'ai failli en mourir, donc c'était un peu grave, on peut le dire. Et c'est vrai que quand je suis revenu à Paris, j'étais plus du tout dans une optique de rencontre, de quoi que ce soit, et ça m'intéressait pas du tout. Au contraire, j'avais besoin de me reconstruire, de me sentir bien. Et du coup, pour moi, rencontrer quelqu'un, c'était plus une option, en tout cas pas à ce moment-là de ma vie. Et moi, j'ai eu l'impression que Thomas insistait vraiment pour qu'on se revoie. Finalement, j'ai un peu cédé. Je me suis dit, bon...
Tu t'es laissé convaincre.
Finalement, bon, il a des arguments, allons-y.
Et moi, je savais rien de tout ça à ce moment-là, de tout ce qui s'était passé.
À New York, tu veux dire? Ouais. Ah, tu lui as pas raconté?
Je te l'ai pas raconté.
Quand on s'est revus,
c'est tout. J'ai peut-être éludé parce que j'en parlais à mon cercle proche, mais pas forcément à un garçon que je contactais comme ça sur des réseaux. Et c'est vrai que j'étais moi en reconstruction et j'étais pas du tout dans une optique de voir des gens. Et finalement, je me suis laissé porter un petit peu par la chose. Et
je l'ai pas harcelé, hein, je tiens à le préciser.
Alors vas-y, raconte ta version, Thomas. Qu'est-ce que tu lui as dit pour le convaincre de vous revoir?
Moi, je connaissais pas encore l'histoire de New York, donc simplement, on s'était effectivement chopé une première fois sur les réseaux. Et après, on se donnait pas plus de nouvelles que ça. On se croisait quand même de temps en temps en soirée ou
C'est voilà, peut-être dans, ça d'ailleurs dans qui avait milieu. Ramené un petit peu les textos, ouais. Parce qu'on s'était croisés. Ouais.
Et des fois, voilà, on s'envoyait quelques messages par-ci, par-là. Et puis, oui, c'est vrai, à un moment donné, j'ai peut-être été un petit peu plus insistant par message. Et on a fini par réussir à se revoir. Et c'est à partir de ce moment-là que c'est après... construit quelque chose derrière, mais la toute première fois, c'est vrai que c'était comme on peut dire chez nous un one shot, voilà. Donc c'est pas très glamour, mais ça se passe parfois comme ça.
Et c'est bien de le dire, parce c'est que c'est chouette de voir des histoires qui n'étaient pas forcément parties pour être pour durer ou voilà.
Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est la sensation que j'ai, c'est je me dis que l'amour peut arriver partout, parce que on peut se dire je vais juste profiter un petit peu d'un bon moment, de m'amuser, et finalement tu commences à rencontrer la personne, la connaître et puis la découvrir, et puis finalement bah ça crée une relation, et puis là il s'est créé voilà une vraie osmose et un amour, donc ça peut partir de rien. Et même si on n'est pas prêt personnellement, finalement, il n'y a pas de loi, en fait.
Parce que quand tu dis quand on n'est pas prêt, quand vous êtes revus, toi, Cyril, t'étais toujours un peu dans l'optique, bon, ok, on va boire un verre, discuter, mais...
Non, mais j'étais même pas dans... on discutait pas.
Non, on va juste se revoir, ok.
Juste, on se revoyait, et puis moi, j'étais vraiment dans... J'étais en reconstruction, j'avais perdu beaucoup de poids, j'étais faible physiquement, j'ai mis quand même plus d'un an à m'en remettre de cette agression, donc...
Parce que t'en parlais sur ton compte Instagram, je crois, c'est où t'as été dans le coma, c'est ça, pendant...
Oui, voilà, je me suis fait agresser par un gang aux États-Unis qui m'ont... c'est une initiation de gang, en fait, qui... prend le premier venu, donc il y a vraiment aucune interaction avec la personne, pour le tabasser normalement à mort. Moi, je vous dois la vie à un passant qui a appelé la police et qui a réussi à faire fuir finalement mes agresseurs. Sinon, je serais toujours sur le carreau. Ils m'ont récupéré et ils m'ont. Ouais, j'étais dans le coma pendant une journée. Ils m'ont opéré directement. J'avais un hématome sous-dural, ce qui veut dire que c'est un hématome qui compresse le cerveau et qui, s'il n'est pas pris à temps, soit peut te tuer, te rendre paralysé, être paralysé. Tout est une question de timing. Et moi, j'ai eu un très bon timing, puisque je suis là et que je peux vous parler.
Okay.
Et mon timing, c'était Thomas, finalement.
Donc vous vous revoyez.
Après, c'est peut-être aussi parce que j'étais là, justement, à ce moment-là, qui était forcément un moment de fragilité pour lui, où j'étais là présent, que ça peut-être derrière aussi... accrocher quelque chose et que ça a pu se faire par la suite.
Oui, ça a sûrement déclenché quelque chose, c'est vrai. Ouais. D'avoir un soutien qui venait d'ailleurs que de mes proches, de ma famille, et qui m'apportait autre chose de nouveau et peut-être dont j'avais besoin à ce moment-là. Ouais.
Toi, Thomas, ça t'a touché quand Cyril t'a raconté ce qui lui était arrivé? Qu'est-ce que t'as ressenti? Est-ce que tu t'es dit, oula, ça a l'air d'être une période compliquée pour lui, comment je peux l'aider?
Bon, quand on s'est revu, ça commençait à aller mieux, même si physiquement on voyait bien qu'il s'était passé quelque chose et ça interpelle toujours. Après, oui, j'ai eu envie tout naturellement d'être là, en fait, à ce moment-là, mais en même temps je me mettais pas la pression en me disant il va mal, il faut que je sois là, parce qu'on se connaissait à la rigueur pas plus que ça, mais je pense que ça a participé à construire notre histoire au départ, et que ça a été un moment fort effectivement et pour lui et pour moi, et que ça a permis de nous construire une histoire, en fait.
Je te pose cette question-là parce que j'ai le sentiment, mais peut-être que je me trompe, que dans certains cas, des débuts d'histoire comme ça, quand il y en a un qui est dans une position de vulnérabilité ou de souffrance, ça peut faire
peur. On peut
peur.
Prendre la poudre
ouais,
d'escampette.
C'est ça, à l'autre et se dire, oula, ça a l'air compliqué cette affaire. Parce qu'on a aussi un peu été habitué dans la pop culture et les histoires d'amour à avoir l'impression que ça doit être une
fluide,
révélation
ouais,
hyper
facile.
Fluide, un coup de foudre, que ouais. Des papillons qui volaient, etc. Mais peut-être que tu vous l'avais vécu comme ça.
Hein, du coup, en commençant par le pire, peut-être que derrière, on savait qu'il y aurait du mieux. Mais non, en l'occurrence, en tout cas, je me suis pas mis la pression en me disant ni « oulala, ça va être supra compliqué », ni en me disant « il faut absolument que je sois là pour lui parce qu'il avait vécu quelque chose de difficile ». Ça a finalement été assez naturel. On a passé des moments ensemble et on a pris plaisir à passer ces moments ensemble. Et de fil en aiguille, ça s'est construit et il s'est construit quelque chose d'important. Et du coup, voilà, on est tombé amoureux.
Ouais, moi je pense que dans le même temps, j'étais dans une reconstruction positive pour le coup, et j'avais besoin de me sentir avancer, de me sentir évoluer dans ma vie, et c'était un gros choc quand même, parce que quand tu réalises que tu peux mourir, que tu peux aussi être diminué, parce que il y a pas que l'aspect morbide, mais ça peut être compliqué à d'autres niveaux, ben tu as besoin de te reconstruire, et moi c'est vraiment dans l'avancement, dans l'évolution de mes relations avec les uns et les autres. Ça a changé aussi avec ma famille, ça a changé avec certains amis, et j'avais peut-être cette ouverture que j'avais peut-être pas auparavant, et ça matchait bien finalement.
Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il disait souvent que d'être revenu d'une expérience comme ça, il avait envie et besoin de se concentrer sur les choses importantes et les personnes importantes. Il a beaucoup dit à ce moment-là, et ben peut-être que du coup j'ai commencé à faire partie de ces personnes importantes.
Justement, est-ce qu'il y a eu un moment ou un déclic? Alors c'est pas forcément en même temps pour les deux d'ailleurs, où vous vous êtes dit bon, je suis en train de tomber amoureux de cet homme-là en fait.
Moi vraiment, si j'y réfléchis, je vois pas un moment particulier où je me suis dit tiens tac, je suis amoureux. Je pense que c'est vraiment un lien qui s'est tissé au fur et à mesure de nos rencontres, de toutes les choses qu'on a faites ensemble, et je vois pas là un moment où je me suis dit tiens ça y est, je suis amoureux. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'est plutôt construit sur l'ensemble sur le long terme, enfin le long terme, au fur et à mesure.
Tu veux dire que t'étais de plus en plus amoureux en fait?
C'est ça.
Plutôt comme si c'était des petites briques qui se rajoutaient.
Et moi je dirais, je suis d'accord avec toi, c'était il n'y a pas un moment précis, mais je pense que le moment un petit peu charnière, c'est celui où je t'ai invité à aller voir une pièce de théâtre, où en fait on m'a proposé des places, et je me suis dit, au lieu d'inviter un ami, bah en fait c'est Thomas que j'ai envie d'inviter. C'est alors que auparavant c'était pas ça nos termes de relation, et je me suis dit bah ce moment-là c'est lui que j'ai envie de voir et d'avoir avec moi cette soirée. Donc et après qui a donné des rendez-vous, des dîners, des rencontres avec des amis, enfin qui installe en fait une relation de couple.
Est-ce que vous vous êtes défini comme un couple à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu discussion là-dessus?
Je crois que non, on s'est jamais posé la question en fait.
Entre nous, je crois qu'on s'est jamais trop posé la question. Je crois qu'on se définit surtout par rapport aux autres, et que donc c'est quand on commence à se présenter aux autres et à présenter son compagnon aux autres que fatalement on commence à
c'est
se présenter soi-même comme
couple. C'est la société qui nous dit qu'on est en couple.
mais après, nous, entre nous, on n'a pas vraiment eu besoin de se mettre cette définition tout de suite, en tout cas. Non.
Même jamais, j'ai envie de dire. Je pense qu'on le vit, on n'a pas besoin de normer notre relation, quoi.
Entre vous, vous n'êtes pas posé pour vous dire bon, est-ce qu'on est un couple ou pas? Vous avez pris la relation comme elle venait.
Voilà, c'est ça.
Et on n'a pas signé de papier.
Au jour le jour.
Okay. Et alors justement, vis-à-vis des autres, vous aviez des cercles d'amis différents. Comment est-ce que vous les avez intégrés ou pas? Comment est-ce que vous avez présenté l'autre?
Cyril est un oiseau très sociable, donc il a un cercle d'amis assez important, étendu, amis, connaissances. Et alors que moi, je serais plutôt quelqu'un de avec un petit cercle d'amis fidèles et que je vois où je navigue toujours entre les mêmes personnes. Donc du coup, c'est plutôt Cyril qui m'a beaucoup présenté à ses amis, à son cercle, et moi qui suis allé dans son cercle.
Je l'ai beaucoup sorti.
Que l'inverse. Et c'est vrai. Moi, je suis quelqu'un de plus casanier qui ne l'est, et du coup, ça a un peu consisté à ça, c'est-à-dire qu'il me sortait vraiment.
Non, mais pas que, mais c'est vrai que du coup, j'ai connu très rapidement ton cercle. Toi, je pense que tu connais pas encore tous mes amis, mais.
Parce qu'il y en a beaucoup. Le cercle d'amis est trop vaste.
J'aime les gens.
Je connais les plus importants.
Oui, bien sûr.
Ok. Et justement, alors c'est une question que j'aime bien poser au couple, mais comment est-ce que vos proches parlent de votre couple, à votre avis? Comment est-ce qu'ils vous voient aujourd'hui ? Parce que, alors, oui, on n'a pas du tout donné de temporalité depuis le début de l'épisode, mais en gros...
Ça fait un peu plus de 4 ans qu'on se connaît et 3 ans, un peu plus de 3 ans qu'on est en couple.
Ok. Ça marche. Et donc, du coup, comment vos proches, voilà, vos amis, vos familles, à votre avis, voient votre couple ? Comment ils en parlent ?
Moi, j'ai envie de parler d'un ami en particulier qui est le meilleur ami de Cyril et qui est devenu, du coup, un très, très bon ami à moi aussi, Ben. Mmh. Et c'est surtout par lui qu'on a des échos de notre relation. Donc, il nous trouve absolument adorables et tout ça, mais en même temps, quand on lui demande,
s'il savait.
Il nous précise aussi que ça lui donne pas du tout envie de se mettre en couple quand il nous voit.
Et pourquoi il dit ça?
Je pense qu'on est très taquin, on rigole beaucoup, Thomas a beaucoup d'humour et je pense que ça plaît quand on est en société, parce que c'est vrai que on a une relation très dans la rigolade, très franche et très drôle, et après des fois un peu trop franche peut-être aussi. on se mâche pas nos mots, donc on peut tout se dire et on le prend bien, ça va.
Ouais, je me tourne vers Thomas pour vérifier. Tu es d'accord avec
rien
ce que Cyril
ajouter.
Dit Rien à ajouter.
Okay. Non, après peut-être que en société, quand un couple, j'ai pas l'impression que ce soit tellement le cas avec nous, mais ça peut être aussi envahissant que d'avoir deux personnes qui s'entendent très bien ou qui se disputent d'ailleurs en public, ce qui est pas tout. Non, nous, on se chamaille beaucoup, mais on se dispute pas énormément. Voilà. Mais par contre, ça peut être en public, effectivement.
Chamaillerie, mais c'est vrai qu'on aime, enfin, on va pas se cacher non plus, on aime bien faire le show, donc on aime bien faire rire les gens, donc ça fait partie aussi de ce qu'on propose en fait à notre public d'amis.
Et justement, ces chamailleries, vous avez des exemples de ce que c'est quand tu dis on mâche pas nos mots, c'est quoi, c'est se vanner, c'est...
Ouais, c'est plus se vanner parce que on en a un petit peu reparlé justement en préparant un tout petit peu notre venue ici et en cherchant bien, c'est vrai qu'on s'est très rarement fortement disputé ou engueulé, donc on se chamaille beaucoup, on discute beaucoup de choses, beaucoup de petits points, soit du quotidien, des petites choses quoi, le travail, le quotidien, la maison, mais c'est pas des grosses engueulades. Et puis on arrive toujours à revenir avec un petit sourire, un petit une petite expression.
Ça dure jamais longtemps,
que
en fait. On n'est pas du tout rancunier, ni l'un ni l'autre, et du coup ça dure vraiment pas longtemps. Mais Thomas m'interviewe souvent avec des micros fictifs. C'est très bizarre.
Mais pourquoi?
C'est la question que je me pose depuis 3 ans.
C'est vrai.
Alors,
je ne peux pas l'expliquer, mais
c'est un mode de communication. C'est
oui,
pour
c'est
lui faire passer des messages ou
non? C'est quand oui, quand j'ai envie de savoir quelque chose ou même juste comment s'est passée sa journée, etc. Je peux attraper la télécommande et aller l'interviewer sur sa journée ou des choses toutes bêtes en fait.
Mais ça dure très longtemps, très long.
Est-ce que c'était une préparation pour Koh-Lanta?
En fait, je me pose la question. Peut-être qu'il voulait que je sois fin prêt.
Non, mais il y a beaucoup de jeux entre nous. On est, je crois, tous les deux des grands enfants.
Oui.
Et du coup, la communication passe beaucoup comme ça je sais pas si c'est le bon terme, mais le jeu
La dimension ludique.
Voilà.
Et tout.
C'est ça. Alors, des fois, je pense que quand on est un peu fatigué ou qu'il y en a un qui est très énergique et l'autre l'est pas du tout, au même moment, ça peut agacer aussi. Mais la plupart du temps, ça se passe plutôt pas mal.
Ouais, c'est hyper intéressant parce que ça, c'est un truc qui me fascine dans les couples, à quel point il y a un genre de langage commun, presque secret, fait de mélange de références et de blagues qui ont tellement dérivé au fil du temps qu'on se rappelle même plus de la première blague, mais ça donne un truc à la fin.
Mais c'est exactement ça, parce qu'il y a des, en fait, tu sais plus d'où est parti qui est l'œuf ou la poule. Par exemple, Thomas nomme tous nos objets. C'est-à-dire qu'on a des noms pour... Et je les connais tous, évidemment. Donc
genre les coussins du canapé,
oui,
la télécommande, les plaids,
oui,
les plaids ont des noms.
Mais comme tu dis, c'est des choses assez secrètes et assez intimes. Et moi, lui, il en parle souvent. Et en fait, je pense surtout au contexte de Koh-Lanta, où par exemple, je lui fais aussi des petites danses de la victoire,
ah oui,
danses de la
vrai.
Joie. Et il a montré tout ça dans l'émission lors du tournage. Et du coup, c'est vrai que pour moi, c'est des choses qui sont vraiment du domaine de l'intime et j'ai vraiment du mal à en parler en dehors de chez nous, alors qu'il en parle beaucoup plus librement que moi.
Bah parce que je trouve ça très drôle et très mignon, donc et je trouve ça hyper charmant quand il m'invente des petits animaux qui viennent sauter sur le lit. Ça, je pense qu'on a au moins 7 chats à la maison, mais alors qu'on en a pas, hein, mais c'est des chats fictifs.
Parfait pour les personnes allergiques, n'hésitez
c'est
pas.
C'est hyper pratique.
Bon, alors on va parler de Koh-Lanta, mais juste avant, j'aimerais bien qu'on parle justement de la vie de couple. Là, vous vivez ensemble
depuis un peu plus de deux ans,
ok. Comment ça se passe?
Ça se passe avec des hauts et des bas, comme pour tout le monde, j'imagine. Alors, ce qui est un peu... c'est moi qui me suis installé chez lui. Moi, je vivais en coloc à l'époque. Et au bout d'un moment, j'ai passé de plus en plus de temps chez lui, qui est maintenant chez nous. Donc, je crois que c'est pas pareil que d'aller s'installer chez son mec ou chez sa meuf que de prendre un appartement à deux. Donc, nous, on en est encore à cette étape-là où, bon... Donc, du coup, ça crée des petites frictions au quotidien, mais qui sont pas insurmontables non plus. En plus de ça, on vit dans des appartements parisiens, donc forcément petite surface, avec toutes les petites contrariétés qui vont avec. Mais je crois qu'on a plutôt pas mal réussi ce défi-là. Et en plus de ça, on est tous les deux assez occupés. On fait plein de choses, Cyril du water polo, il sort pas mal, il voit pas mal ses amis, moi je fais pas mal de sport aussi, donc on est vraiment, l'appartement c'est l'endroit où on se retrouve le soir et c'est pas non plus un endroit où on passe toute notre journée quoi, donc...
Vous travaillez pas de la maison ni l'un ni l'autre?
Non, enfin
à part ponctuellement, ok.
Non, pas pour l'instant.
Un maison bureau, même si on crée beaucoup de choses.
Ouais. Ok. Ça marche. Et justement, le fait que Thomas, tu viennes t'installer chez Cyril et que ça devienne au fil du temps aussi un peu ton appartement quand même, comment vous l'avez vécu l'un et l'autre? Déjà, comment vous l'anticipiez avant de... Est-ce que c'est toi, Cyril, qui a proposé à Thomas, t'es là 5 soirs par semaine, en fait, je te donne des clés? Est-ce que c'est Thomas qui... Comment vous en avez parlé? Comment vous avez décidé cette installation?
Je pense, oui, c'est moi qui t'ai proposé les clés, mais assez rapidement. Le double des clés. Après l'installation, comme Thomas gardait son appartement en coloc, on se sentait pas oppressé entre guillemets, dans le sens où il y avait pas de choix de retour en arrière. Donc finalement ça s'est fait correctement. Après c'est vrai qu'on n'a pas anticipé le fait que tu étais chez moi et que j'étais dans mon univers à moi et qu'il fallait que tu aussi t'acclimates à cet univers ou mettre ta patte. Et c'est plus compliqué.
J'ai oscillé longtemps entre nos deux appartements, entre le mien et le sien. Et quand j'en ai eu marre de faire plein de sacs à dos et d'avoir toujours un sac à dos sur le dos, j'ai commencé à ramener des affaires. Et de fil en aiguille, t'es installé et tu t'en rends même pas compte. Donc je pense qu'il y a le côté « je t'envahis un petit peu avec mes affaires ». Donc
j'ai dû créer un nouveau dressing.
Oui, c'est ça, il y a un peu le côté crée-moi de la place.
Il m'a fait de la place, effectivement.
Oui, je lui ai créé de la place.
On a passé un week-end aussi
à trier
et du coup chacun, enfin surtout Cyril, parce que j'allais m'installer chez lui, mais
pour libérer de l'espace.
On a fait de la place.
On a fait en sorte qu'il puisse avoir de la place.
OK. Et alors il y a un autre sujet qui est souvent un sujet de discorde sur la vie quotidienne, qui est les tâches ménagères et la tolérance au ménage. Ça, ouais, ça l'est.
Oui.
Alors, comment ça se passe chez vous?
Je comprends pas bien tout ça, là.
Est-ce qu'il y en a un qui est plus maniaque que l'autre? Vas-y, toi.
Attention à ce que tu dis.
Tu auras un droit de réponse, Cyril.
Cyril trouve que j'en fais jamais assez. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'on a réussi à se partager les tâches. Mais après, ça peut être aussi quelque chose de subjectif. Il trouve que je fais pas le job, en fait. Donc, c'est assez compliqué.
C'est pour le job.
J'essaye de faire des efforts.
Il te le dit, du coup.
Il me le dit, ouais. et j'essaye de faire des efforts. Mais, malgré tout,
c'est un peu compliqué.
C'est un petit peu compliqué, ça reste compliqué. Et en même temps, je pense qu'il est effectivement, il a plus ce côté peut-être organisé, qui, moi, je suis un petit peu fouillé partout tout le temps, mais
oui, je confirme.
C'est plus une histoire de rangement, enfin de d'organisation, de rangement,
de laisser traîner des affaires.
Ok.
Oui, le petit déj, les affaires de sport. C'est un peu l'impression de vivre avec un ado de 15 ans,
mais je m'améliore.
Oui, ça travaille, ça travaille. Mais après, il a lui aussi ses petits, ces éléments où on peut pas tergiverser. Donc, j'essaye de faire des efforts sur la vaisselle aussi, mais donc je suis pas tout blanc, hein, faut pas croire.
Parce que toi, Thomas, c'est la vaisselle, ça t'aime pas que là, il y ait de la vaisselle qui.
Comme moi, je fais la cuisine.
Moi, je nettoie.
C'est la vaisselle. Je veux dire, c'est le.
Et les lessives aussi, les lessives.
Beaucoup les lessives, oui. Mais du coup, je fais les courses, je fais le ménage et la cuisine.
Donc, vous avez plutôt réparti le type de tâches.
On va dire que c'est ça.
Non, et en plus de ça, il a quand même la cuisine. Il est très bon cuisinier et donc il gère ce truc-là et c'est très bien. Et moi, je gère la lessive alors que je déteste ça.
Ok, et vous dites que c'est encore un peu compliqué. Est-ce que, du coup, ça déclenche pas des grosses disputes, puisque tu disais qu'il n'y avait pas des grosses engueulades, c'est plus des réajustements
Disons, je crois qu'on cherche encore sur la méthode à prendre, et nos querelles du quotidien, ça, c'est surtout à ce niveau-là, hein, plutôt dans la grande majorité. Donc, c'est pas des choses intrinsèques à la relation, mais quand même, on sait que le quotidien, ça peut faire du mal au couple.
Mais clairement aussi, c'est effectivement des histoires d'organisation, de tâches ménagères, de plein de choses, mais c'est aussi des histoires d'espace. Et c'est vrai qu'à Paris, on en manque cruellement. Je pense que tous les Parisiens le savent. Donc, c'est vrai qu'on parle là de changer d'appartement, de prendre plus grand. À Paris, c'est quand même une vraie galère de trouver un appart. Donc, on est un petit peu dans cette discussion-là de s'agrandir. En même temps, s'agrandir, ça peut être aussi agrandir le bazar. Donc, c'est pas forcément la seule réponse.
À ranger, à nettoyer. Mais c'est vrai que si chacun peut avoir un peu son coin, ou ne serait-ce qu'un bureau où tu peux.
C'est ça.
Chacun est libre de le laisser en bordel, ou de le ranger, ou de vivre sa vie.
Paris, on a rarement chacun un espace bureau, à soi. C'est plus compliqué, mais après, bon, comme encore une fois, on n'est pas toujours à l'appartement au même moment, on arrive aussi à avoir des petites zones de confort chacun, mais c'est vrai que c'est aussi l'aspect promiscuité qui fait que ça peut devenir compliqué, les tâches du quotidien.
Ok.
On s'en sort pas mal, hein.
Mais précise-le, parce que bon, on sait jamais.
Je n'en doute pas, et je pense que c'est un truc que tous les couples traversent, et en plus, c'est jamais réglé. Enfin, même à partir du moment où tu as trouvé un bon mode de fonctionnement,
tu me rassures un peu.
Non, mais il suffit qu'il y ait l'un des deux qui est au chômage, un enfant qui arrive, un changement de travail,
et tout
est bouleversé. Donc c'est sans arrêt des petits accros.
On y travaille quotidiennement, justement.
Mais je pense que ce qui est cool, enfin, en vous écoutant, c'est qu'il y a cette dimension se le dire, en fait, plutôt que de garder genre l'accumulation, genre bon bah je vais encore faire la vaisselle et je vais garder de la rancœur au lieu d'aller dire à l'autre.
C'est vrai qu'on se le dit, et comme on n'est pas du tout rancunier, ça passe assez rapidement. En fait, on se fait un peu du boudin, je vais appeler ça du boudin, et on se regarde un peu du coin de l'œil avec un petit sourire de malice, et moi j'arrive pas à rester sérieux, donc tout de suite ça me fait rire, et du coup ça détend les choses, même si j'aimerais rester énervé, mais
il devrait pas dire ça, parce que ça passe, ça veut dire que du coup il y a une marge de manœuvre.
Oui, mais alors oui, Thomas aime bien me poser, je vais aller de plus en plus loin pour tester ma patience.
Surtout que là, les auditeurs, les auditrices ne le voient pas, mais Thomas fait un regard en coin vers Cyril, il teste son pouvoir.
Ouais, ouais. Bon, il a le pouvoir de me faire rire, c'est un super pouvoir qu'il utilise beaucoup.
Ouais. En vous écoutant, j'ai l'impression que vous vous marrez plutôt pas mal au quotidien et dans votre couple.
Honnêtement, moi, c'est le couple avec lequel j'ai eu d'autres couples que Thomas, et c'est celui où je m'amuse le plus, où je rigole, c'est lui qui me fait le plus rire de tous les compagnons que j'ai pu avoir. Ouais.
C'est mon secret.
il s'est touché là où ça marche pour moi.
J'aimerais bien qu'on parle de Koh-Lanta maintenant. J'avais cru comprendre, Cyril, en te lisant sur Instagram, notamment que Koh-Lanta, c'était vraiment un rêve pour toi, et depuis très longtemps, et avant ta rencontre avec, avec Thomas. Est-ce que, Thomas, tu te souviens la première fois que Cyril t'a parlé de Koh-Lanta ?
Alors, je ne me souviens pas exactement à quel moment c'était, mais ça a toujours été quelque chose de très présent. Parce qu'effectivement, il voulait le faire depuis plus de 10 ans, je crois. Et donc, dès qu'on a commencé à évoluer ensemble, j'ai su qu'il y avait cette envie-là. Et puis, j'avais participé plusieurs fois, je crois. Je l'avais aidé à faire sa lettre, à faire sa candidature. Donc, ça faisait partie, oui, je connaissais son envie de faire Koh-Lanta, ça, il n'y avait pas de souci.
Et toi, Cyril, chaque année, tu refaisais une candidature, c'est ça ?
Ouais, comme dit Thomas, ça faisait plus de 10 ans que je candidatais. C'était peut-être ma 13e candidature. Et tous les ans, je repostulais avec un profil. J'essayais d'axer mon profil un peu différemment, histoire de voir si ça marchait un peu mieux. Et j'étais tellement fan que je fais des soirées, je faisais encore, mais des soirées que j'appelle les votes Koh-Lanta, où j'invite mes amis à regarder Koh-Lanta et je fais des jeux en même temps qu'on regarde Koh-Lanta, et ça je le faisais avant de participer moi-même, parce que comme ça me permettait d'avoir mes amis chez moi et de pouvoir regarder mon émission préférée. Donc forcément Thomas connaissait, puisque
du coup je me suis retrouvé baigné dans Koh-Lanta.
C'est ça.
Ouais. Toi tu as assisté à ces soirées Koh-Lanta.
Voilà. Oui. Okay. Même à ces occasions-là que j'ai rencontré pas mal de ses amis. Donc voilà, Koh-Lanta c'était présent.
Ok. Et est-ce que tu te disais que ça pouvait arriver?
Mais c'est ça le
un jour,
truc. En
ou
fait.
Est-ce que ça
pas.
Restait un truc très virtuel?
Alors, très honnêtement, je me disais bien que ça pouvait arriver, effectivement, parce que je trouvais quand même, et notamment cette année où ça a fonctionné, que le profil était vachement intéressant. Et en plus de ça, c'est vrai que contrairement à d'autres chaînes, TF1 n'était pas vraiment encore illustré en mettant en avant des couples gays. Donc je trouvais que même sur ce qu'ils pouvaient proposer, c'était vachement intéressant. Donc après, sans doute qu'il y en avait d'autres dans les candidatures, mais je me disais oui, pourquoi pas. En tout cas, je l'ai pas finalement aidé à faire ses candidatures, et aussi pour cette année-là accepter d'apparaître dedans, en me disant de toute façon ça marchera pas. Non,
ouais, me disais bien que
ça pouvait fonctionner.
Ouais. Okay. Et toi, Cyril, qu'est-ce qui t'a attiré dans Koh-Lanta ? Pourquoi c'était un rêve comme ça depuis 10 ans ?
Ben moi, je crois que ça représente tout ce que j'ai pu. Ce qui m'excite en fait dans la vie, c'est le côté le jeu déjà. Il y a le côté sportif, le côté aventure, le côté humain. Et ouais, tout est relié en une seule partie. Et ça aurait été non télévisuel, je l'aurais fait quand même, quoi. C'était vraiment l'excitation du défi personnel et du dépassement de soi qui m'attirait depuis tant d'années. Et puis moi, je suis vraiment un joueur, donc c'était vraiment une grosse satisfaction pour de participer, ouais.
Ok. Et justement, cette dimension télévisuelle, le côté médiatisation, toi tu dis, Thomas, j'ai accepté d'apparaître. Est-ce que vous en aviez discuté ensemble ? Est-ce que c'était quelque chose qui vous faisait peur ou...
Alors, c'est vrai que, comme dit Thomas, on l'a toujours dans le coin de la tête que ça peut marcher, mais le casting déjà est tellement long et j'ai tellement eu de refus que... Bah, en fait, ça nous est un peu tombé dessus aussi.
Ouais, et puis je crois que entre la candidature où on accepte d'apparaître et puis le tournage, en fait, ça se passe en deux temps, c'est-à-dire qu'il y a toute la partie qui n'est pas encore médiatisée, où il y a le tournage, il y a la candidature encore en amont. Et puis il y a vraiment le moment de la diffusion où alors on commence à se rendre compte de l'ampleur et où on se dit que peut-être on n'a pas pensé à tout.
On prend conscience de l'impact que ça a dans la vie quotidienne. Voilà.
Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Le côté bon bah ok, on fait la candidature, on fait le tournage, ouais,
ça n'a l'air de
mais
rien,
comme
en
la
fait,
diffusion
oui.
est dans plusieurs mois Absolument, en fait. Ouais.
Ça veut rien dire finalement. Même si lui est venu sur place, c'est un voyage qu'on lui paye. Il a pas conscience en fait de ce qui va arriver par derrière. Mais même moi non plus, parce que j'ai pas l'image que je vois à la télé. C'est pas ce que j'avais en tête en fait quand je l'ai vécu. Alors ça retranscrit très bien l'aventure, mais en même temps, moi j'ai des émotions beaucoup plus intimes et personnelles où je vois pas les mêmes choses que le téléspectateur non plus. Donc c'est deux visions.
Bah, moi, j'ai commencé à me rendre compte de ce que ça représentait au moment où justement je suis allé là-bas pour le rejoindre sur le jeu. Avant ça, on est tellement coupé de. En fait, on n'a pas de nouvelles. Le Koh-Lanta, c'est ça existe pour lui, mais ça n'existe pas pour les autres en fait, puisque le jeu n'a pas encore débuté à la télé. Donc l'aspect médiatique, j'y ai vraiment pas songé avant de me retrouver face à leur caméra sur l'île. Hein. Donc.
Et du coup, ça voulait dire aussi pendant le tournage être séparé pendant un assez long moment, non? Parce que t'es resté plus de 30 jours, je crois.
Je suis resté 37 jours. Ouais. Et moi, clairement, c'était la plus grosse difficulté, c'était le manque de nouvelles. Parce que aujourd'hui, on n'est plus sans nouvelles de nos proches, qui que ce soit. En fait, même un texto, un petit envoi, juste pour se rassurer. Et là, c'est zéro nouvelle, on n'a rien. Et c'est vraiment le plus compliqué à gérer et à vivre. Et moi, c'est vrai que mes pensées n'allaient vraiment que vers Thomas, en fait. Comment il allait, comment ça se passait, j'avais besoin d'être rassuré, en fait.
Et toi, Thomas ?
Bah, je le rejoins complètement là-dessus, c'est que... dans la société dans laquelle on vit, on voyage beaucoup, on peut être séparé, mais avec les téléphones, les ordi, on n'est jamais finalement vraiment séparé. Et là, comme lui est complètement coupé du monde et qu'on n'a pas, on peut pas échanger, on a juste un appel par semaine pour dire Cyril va bien et puis derrière la personne raccroche.
C'est ça.
Il est vivant.
Et c'est finalement cette chose là parce qu'on n'en a pas l'habitude qui est un petit peu stressante inhabituelle et qui vraiment génère un sentiment de manque, en fait. On a envie d'avoir des news, de savoir s'il va bien et de savoir ce qui se passe.
Donc d'être rassuré, c'est assez fort, ouais, c'est intense.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Ouais, parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup regardé Koh-Lanta parce que c'est une institution familiale. Tous les vendredis soirs avec mes frères et sœurs, on regarde Koh-Lanta. Donc j'ai vu beaucoup de saisons. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup cet aspect du point de vue des candidats. On entend les candidats dire que c'est dur, que leur famille leur manque, etc. Mais on n'entend pas du tout. Et en fait, j'y avais jamais réfléchi.
Pour ainsi dire jamais
à l'autre côté, le côté des familles qui en fait sont là.
Laisse, ouais.
Un grand silence parce que nous, on voit les candidats à l'écran, mais c'est des mois après. Et du coup, on est là en mode ça va, ils vont bien. On les voit semaine après semaine.
La différence, c'est que nous, on continue notre petite vie, donc à fréquenter les gens qu'on fréquente, à aller au travail, etc. Qu'on a ce petit appel une fois par semaine pour dire Cyril va bien. Mais c'est vrai que le sentiment de manque est finalement. Sans doute réciproque à ce qu'ils vivent en étant isolés sur leur île. Ouais. Et le fait de ne pas du tout avoir de nouvelles aussi sur la personne qu'on aime.
Oui, de ne pas pouvoir se parler et de ne pas vraiment avoir de nouvelles à part de manière très succincte. Et toi, pas du tout, du coup.
Rien du tout. Et heureusement que j'ai gagné le coup de téléphone. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a reboosté pour le reste de l'aventure.
Okay.
C'était une étape importante.
Et donc le fait, alors il y a déjà eu, il me semble, des candidats dans Koh-Lanta qui ont dit ou laissé entendre qu'ils étaient gays, mais je crois pas qu'il y ait eu de couple vraiment où le partenaire soit apparu.
Non, c'est la première fois, oui, qu'un couple gay est présenté, en tout cas qu'ils viennent sur place et qu'il y ait même un baiser gay
en prime time
sur TF1, sur une des plus grosses chaînes d'Europe, c'est quand même.
Et puis qu'il soit présenté dans le portrait du candidat comme.
Il y en a eu déjà une fois à Alexis, mais bon, c'est rare, quoi. C'est trop rare, j'ai envie de dire.
Donc, c'est vrai que c'était important pour vous
ou... Ouais, moi j'y pensais quand j'étais sur place parce que je me disais, au-delà du fait que je sentais que j'avançais dans l'aventure et que je voulais, parce que moi j'étais quand même là pour gagner, je voulais que Thomas et aussi son petit frisson qui puisse participer. J'étais fier de le montrer et de l'exhiber au monde entier.
On va en reparler, Thomas. Mais Thomas vient de faire une grimace.
J'étais fier de le faire venir aussi pour le symbole, ouais. Je pense, dans une émission qui me tient à cœur, où moi j'étais présenté ouvertement comme en tant homosexuel, de représenter un peu les LGBT et que ça fasse un peu du bien.
Et toi, Thomas, est-ce que c'était important le symbole pour toi aussi ou...
Moi, je pense que fondamentalement, je suis beaucoup moins, je sais pas si militant c'est le terme, mais en tout cas à vouloir absolument me montrer, enfin montrer mon couple. Après, en revanche, ça me dérangeait absolument pas de le faire. C'est juste que je trouve ça normal en fait quelque part. Donc, comme je trouve ça normal, j'allais pas dire non. Donc, j'ai dit oui. Mais j'ai pas dit oui pour dire tiens, il est temps de montrer des homos à l'écran. Je trouve que ce serait normal qu'on en voit davantage, mais je voulais pas que ça paraisse quelque chose d'exceptionnel. Oui.
Bah déjà, ça n'a jamais été en effet l'idée, parce que moi, quand je fais l'aventure, je le fais pour moi, pas pour une cause X ou Y. Et après, quand tu es sur place, tu y penses et tu te dis, ouais, en plus de faire venir la personne que j'aime, et j'en suis très fier, bah, c'est une belle image, et ça, c'est très positif aussi. Et tant mieux.
Voilà, moi, je voulais pas que ce soit forcément l'élément central de son portrait, par exemple. Effectivement, enfin, Cyril, c'est Cyril, il a sa personnalité, c'est son sport, ses passe-temps, et puis il est en couple avec Thomas, mais j'aurais pas aimé qu'il présente ça comme étant l'élément central et qu'ils axent le portrait de Cyril uniquement sur ça. Là, oui. Ça m'aurait davantage dérangé, mais ils l'ont pas fait. Et
il fallait pas être le guet de service, c'était pas l'idée. Même quand je me suis présenté, c'est-à-dire, voilà, ce que me dit Thomas, j'ai dit, je suis designer, j'ai 37 ans et je suis en couple avec Thomas, j'aime le water polo. C'est une information parmi les autres. On m'a beaucoup posé la question par rapport à mon coming out, mais moi je veux pas appeler ça un coming out, c'est-à-dire que c'est une information que je donne sur mon quotidien, sur ma vie. Et
pourquoi t'aurais caché cette information, quoi?
Exactement.
En plus, enfin, je veux dire, effectivement, les gens, quand ils parlent d'eux, ils parlent de leur métier, de leur passion et des personnes dans leur vie.
Ce genre de choses. C'est pas, y a pas, je fais pas une révélation, puisque une révélation, ça serait le dire à ma mère qui le sait pas, mais elle est déjà au courant, donc tout va bien.
Ok, ouais, je comprends. Cette envie aussi de, ouais, que ce soit quelque chose de normal,
mais
ça n'empêche qu'on le note, quoi, parce que effectivement, c'est pas assez courant sur les chaînes de télévision. Donc,
tout à fait. Mmh. Si ça peut ouvrir des voies, écoute, c'est très bien. Mmh. Après, c'est pour ça que Thomas dit que je suis un peu plus militant, mais même si je le fais pas dans ce sens-là, je dis tant mieux. Voilà.
Ok. Et après coup, du coup, justement, après la diffusion. Comment ça a été vécu? Vous avez eu des retours de vos proches et du grand public? Comment vous les avez vécus?
De nos proches, tu veux dire
plus
des...
sur la dimension, est-ce que c'est plutôt tes proches, Cyril, est-ce qu'ils t'ont reconnu dans l'émission? Est-ce que ils ont été surpris? Est-ce que
je pense que mes proches m'ont reconnu dans mon côté fun, loufoque, sympa, mais ils m'ont trouvé aussi très calme.
Ah oui, ok.
Ouais, c'est vrai. Et moi-même, je me suis trouvé très calme et très posé et beaucoup plus réfléchi finalement.
C'était l'aventure de ta vie.
C'était aussi.
Tu l'as pris très au sérieux.
Exactement. Je pense que on te met en fait au pied du mur et il faut que tu réagisses, mais tu prends avec les armes que tu as. Et finalement, je me suis plus posé que ce que j'aurais pu imaginer. Et j'ai.
Parce qu'on l'avait mis en garde avant de partir.
Aussi,
parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que Cyril adore les jeux. Plein de sortes de jeux et sportifs, intellectuels, etc. Et par contre, il déteste perdre. Et du coup, il peut être très agacé.
Je suis très fair play.
C'est peut-être les seuls moments d'ailleurs où il s'énerve vraiment. Et donc, tous ses potes et moi aussi, on lui disait avant de partir, surtout, tu restes calme, tu restes calme, tu restes calme. Et en fait, on a constaté qu'il est resté très calme pendant toute l'aventure.
Je les ai, pour une fois, écoutés.
Tu dis que tu n'aimes pas perdre et Cyril a essayé de dire en dessous, mais je suis fair play quand même. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Cyril?
Parce qu'en fait, dans le water polo, qui est un sport de contact, donc c'est un sport quand même très physique, il y a souvent des échauffourées où c'est un petit peu, c'est quand même un sport violent. Donc il faut savoir perdre. C'est vrai que j'aime pas perdre, pas qui aime, on va dire. Mais du coup, j'ai aussi beaucoup de fair play. C'est-à-dire que si la personne, elle a été meilleure que moi, pas de problème. C'est j'aime pas les gens qui trichent, j'aime pas voilà, c'est quand je me fais berner ou quoi.
T'aimes pas le sentiment d'injustice sur un jeu?
C'est ça. À Koh-Lanta, on va dire que c'est quand même monnaie courante et j'ai réussi à me contenir et à rebondir, on va dire.
OK. T'es d'accord avec
par rapport à ça, je n'ai absolument rien à dire parce que je crois que je suis pire que lui.
On
a découvert une année, ça je vais raconter. C'est une petite anecdote sympa parce qu'en fait, Cyril faisait tous les ans un tournoi de volley qui est d'une association LGBT, dont je fais partie maintenant. Et donc, quand on se connaissait pas encore, il le faisait avec un groupe d'amis. Et il y a 3 ans, j'ai intégré cette équipe. Et
quelle
en fait,
idée.
avant que j'arrive, c'était lui le râleur de l'équipe, celui qui gueulait sur tout le monde. Et en fait, l'année où j'ai participé, c'est moi.
Ah, j'étais calme.
Il est apparu comme quelqu'un de très calme parce que j'étais pire que lui.
Peut-être que quand il y a pire que moi, mais justement, je dis, ils font le job.
Sur l'aspect, je déteste perdre. Là, je pense qu'on se rejoint complètement.
Un bon point commun.
Les gens ne pouvaient plus nous supporter sur cette journée de tournoi.
Non, parce que moi, ils se sont dit, Cyril est très calme, c'est super, ça fait du bien.
Ok. Et alors, du coup, les retours du grand public, du coup, après la diffusion, parce que donc, vous disiez, avant la médiatisation, on n'avait pas forcément conscience de tout ce que ça allait impliquer. Comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que ça a impliqué?
Alors, moi, personnellement, je suis resté assez à distance des retours qui, je pense, pour la plupart, ont été plutôt très positifs, des gens plutôt très sympas.
Plutôt sur les réseaux sociaux.
Sur les réseaux sociaux, il y a eu quand même quelques petites choses à noter, homophobes. C'est plus toi, Cyril. Moi, j'en ai eu sur mon Instagram, mais comme j'y vais pas beaucoup, je les ai vus que 6 mois plus tard et d'autres personnes s'étaient chargées de répondre. Donc, j'ai juste lu ça, genre 3 mois plus tard.
Une bonne technique, donc. Voilà.
L'ignorance, c'est pas mal, ça marche toujours. C'est vrai que pour ma part, j'étais dans le feu de l'action, on va dire. Et moi, j'ai vu aussi mes réseaux sociaux exploser.
Toi, t'étais très connecté, du coup.
Parce que je jouais avec aussi. Et puis, c'était intéressant de voir le retour parce que t'as une curiosité. C'est un peu malsain aussi, mais tu veux voir ce qu'on dit de toi. Il faut arrêter, faut pas se leurrer.
Surtout si tu sais que des gens disent des choses sur toi, c'est très dur de ne pas aller voir.
Exactement. Donc, t'es toujours en train de regarder, même sur Twitter ou quoi. Alors, c'est l'enfer sur Terre, mais il faut pas le faire. Hein, je te conseille vraiment. Mais t'es quand même trop curieux, donc tu y vas. Et c'est vrai que, quand même, on va dire qu'à 95%, j'ai eu des super retours. J'ai eu une très belle image et c'était très positif. Donc, les gens t'abordent dans la rue de façon très sympa, toujours avec le sourire et de façon positive. Et même sur les réseaux sociaux, c'est le cas, des centaines de messages pour te soutenir. C'est rare. Dans une vie, ça arrive qu'une fois. À part si tu t'appelles Rihanna. Et après, il y a eu ces 5% d'homophobie, parce que quand on m'attaquait, c'était à peu près uniquement là-dessus, parce que peut-être ils savaient pas sur quoi m'attaquer d'autre, mais c'est vrai que les gens se chargent souvent de répondre à ta place, et donc c'est pratique. Après, je me suis quand même pas gêné pour répondre à certains qui m'envoyaient des messages en privé, mais je me suis dit si j'ai une visibilité forte comme ça et qu'elle est très positive, c'est quand même super, mais on voit qu'il y a quand même encore des choses à faire parce que c'est pas à 100% et quand on m'attaque, c'est uniquement là-dessus. Donc il y a encore des choses à faire.
Et puis les réseaux sociaux, c'est quand même un endroit quand même où les gens aiment bien être un peu rageux, donc c'est pas forcément qu'on a les meilleurs retours non plus.
Et j'ai réalisé d'ailleurs que les gens n'avaient pas conscience qu'il y avait des vraies personnes derrière, en fait. Parce que dès que tu leur réponds, en frontal, ils sont là, ah, mais je pensais pas que tu me répondrais, ou, ah, mais je croyais pas que c'était toi qui répondais, mais tu penses que c'est qui, j'ai des secrétaires, mais, et en fait, limite, les gens s'excusent.
Comme si t'étais un acteur,
oui,
quoi,
ou un robot.
Oui, un acteur qui joue un personnage, je veux pas dire, parce qu'il y a aussi des gens qui harcèlent les acteurs sur leur compte Instagram, mais faut pas le faire non plus, mais quelqu'un qui joue un personnage, comme si c'était l'Instagram de Barney Stinson et que les gens venaient lui parler, quoi.
Exactement.
Vu qu'il y a quand même une distance du fait des réseaux sociaux, comme si c'était pas si grave, en fait, oui, d'insulter, d'être homophobe, alors que finalement quand tu leur réponds, ils se rendent compte que bah quand même ça a touché la personne, donc c'est peut-être un peu grave quand même. Mmh. Voire beaucoup.
Et c'est aussi rassurant, entre guillemets, parce que ça dédramatise le truc, parce que je me dis, mais en fait, ils ont vraiment aucune conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir. Et pour moi, ça me rassurait en me disant, bon, au moins, ils comprennent pas. Enfin, ouais, non, c'est nul ce que tu couperas.
Non, mais attends, je trouvais que c'était intéressant. Ça t'a rassuré de voir que la haine qu'ils pouvaient envoyer dans un message pouvait être dégonflée très rapidement dès qu'ils se rendaient compte que t'étais un humain, en fait.
Oui, enfin, oui, c'est ça. C'est peut-être que, voilà, dès qu'ils voyaient qu'il y avait une vraie personne en face, ça leur faisait revenir à, des vrais sentiments que tu aurais dans la rue, et jamais t'irais insulter quelqu'un dans la rue comme ça. Et finalement, ça les remettait face à leur réalité, à la réalité, quoi. Donc,
Alors, justement, moi, c'est peut-être une question d'hétéro naïve, mais on lit beaucoup de choses autour d'un regain de l'homophobie, et notamment dans la rue, parce que tu disais, les gens viendraient jamais nous insulter dans la rue comme ça. Est-ce que vous, c'est un truc auquel vous avez déjà été confronté dans l'espace public quand vous êtes ensemble, à des regards, des remarques,
Je pense qu'on a la chance déjà d'habiter à Paris.
Oui, on est un peu privilégié en vivant à Paris. J'imagine maintenant, je crois que ça peut aussi arriver à Paris. Hein. C'est pas propre à la province. Mais effectivement, on reste toujours. Moi personnellement, je reste toujours un petit peu vigilant quand je rentre tard, parce que j'ai ça aussi en tête que ça arrive.
Je pense que Thomas est plus vigilant que moi. Ouais. Moi, je fais moins attention.
C'est d'ailleurs quelque
à ce genre
chose
de
que je reproche assez régulièrement, c'est que je trouve qu'il fait pas assez attention par rapport à cette notion-là. Il l'a pas en tête, et pourtant, il s'est déjà fait, du coup, pour le coup, agresser méchamment. Alors que
oui, mais ça n'avait rien à voir avec quelque chose d'homophobe.
Ça a à voir avec la violence.
Oui, mais bon, là, on parlait d'un rapport plutôt. Par rapport à notre sexualité, à comment on présente notre couple. Moi, c'est vrai que dans la rue, après, je suis pas du style à tenir la main, parce que
c'est ça qu'il faut dire aussi, c'est que nous, non pas qu'on se force à pas le faire, mais on n'est pas hyper démonstratif à partir du moment où on quitte notre appartement ou.
Mais ça, je pense, c'est dans nos natures,
c'est pas un truc qu'on sait sur lequel on se force. Après,
à pas faire ou quoi. Après, quand on se revoit dans la rue, on se fait un smack.
C'est aussi une histoire de nature, mais moi je souhaiterais que les gens qui aient envie de le faire puissent le faire tranquillement, sans se faire agresser.
C'est ça aussi qu'il faut dire.
Nous on le fait pas, non pas par peur de se faire agresser, mais parce que ça nous correspond. En revanche, il faudrait que ceux qui souhaitent le faire puissent le faire.
Et tu dis quand même que toi t'as toujours un peu ça en tête, dans un coin de ton cerveau, de si on rentre tard. Okay.
Oui, parce que pendant un temps, je travaillais dans un bar de nuit, donc je rentrais tard et j'ai vu pas mal de choses dans la rue. Et je sais que c'est toujours des moments où, quand on rentre de soirée, on n'est pas super vigilant et où il peut quand même se passer des choses pas très sympas. Donc, personnellement, j'y fais attention.
Ok. Et tu disais que Cyril, il faisait pas assez attention. C'est un truc qui te fait peur parfois. Enfin, c'est un.
Ouais, j'y pense pas non plus tous les jours, mais effectivement, je trouve qu'il y a un petit manque de vigilance par rapport à mon regard à moi sur ça, ouais. Parce que Cyril, il est souvent avec ses amis complètement sans se rendre compte que, à un moment donné, il va les quitter, puis il va rentrer tout seul, voilà. Et donc, à la rigueur, c'est même pas forcément par rapport à l'homosexualité. C'est tout simplement d'avoir, par rapport aussi au fait de tomber sur les mauvaises personnes au mauvais moment. Ça peut arriver.
Moi, je pense que même si je me suis fait agresser pour le coup aux États-Unis, je suis pas du tout dans cette optique-là. En fait, je réfléchis pas. En amont, et je peut-être je vois venir les choses. Je vis plus simplement, quoi. En fait, je me prends moins la tête. Ouais.
Et ce qui montre aussi que t'as peut-être digéré ce truc-là, parce que t'aurais pu développer stress post-traumatique ou des inquiétudes ou des angoisses par rapport à ça.
Complètement, c'est, on m'avait dit, parce que j'avais été suivi quand même après cette aventure, mes aventures, que en fait il y avait deux types de personnalités qui rejaillissaient par rapport à ça. C'est soit les gens ont un regain d'énergie et de dynamisme, ont conscience de la chance qu'ils ont, en fait, de ce qu'ils ont par rapport à ce qu'ils ont vécu, ou alors il y a des gens qui s'apitoient sur leur sort et qui tombent aussi dans des dépressions en se disant pourquoi ça m'est arrivé à moi, pourquoi, comment. Et moi, en fait, j'en ai même jamais voulu à mes agresseurs, j'ai voulu avancer. Il fallait surtout avancer, il fallait aller au-delà, il fallait rebondir, parce que tu pouvais pas stagner, c'était pas possible. Rebondir, c'était aussi arrêter de penser à ce genre de choses quand tu sors et aller de l'avant.
Du coup, c'est peut-être moi, dans le cas du couple, qui ai développé des phobies à sa place.
C'est ça, c'est par rapport.
Oui, comme vous, votre histoire a démarré à ce moment-là. Oui, c'est prendre des phobies de l'autre et c'est névrose.
C'est ça. C'est les vases communicants.
Et ben alors, très bonne transition que tu m'offres, Thomas, parce que je voulais vous demander, selon vous, est-ce que l'autre vous a changé depuis, du coup, 4 ans que vous vous connaissez maintenant? Qu'est-ce que vous êtes apporté l'un à l'autre?
Je pense que fatalement, dans le cadre d'un couple, on évolue, on change. Je ne sais pas si on change véritablement de personnalité. Je crois que c'est même pas souhaitable, du coup. Mais en tout cas, on évolue sur des choses, effectivement. Surtout, on apprend, on se construit à deux, là où avant, on se construisait tout seul. Et je crois qu'il ne faut pas oublier de continuer de se construire tout seul, mais qu'il faut aussi mettre des choses pour se construire à deux. Donc forcément, ça demande d'évoluer, de changer, de faire des compromis aussi, mais aussi de rester soi-même et un peu libre de son côté, quoi.
Je pense que oui, c'est ça. C'est, nous, on s'est laissé nos libertés. Et avec ça, ça nous a apporté une sérénité, je pense, aussi dans notre relation, beaucoup de confiance. Ça, c'est important, qu'on n'avait peut-être pas avant, parce que en étant seul, on est face à soi-même, alors que là, on s'apaise, en fait, je pense.
Par exemple, moi, je suis pas chiant. J'aime moins sortir que lui, qui aime sortir beaucoup.
Ton côté plus casanier.
Voilà. Ouais. Et du coup, je l'embête pas pour qu'il sorte avec ses amis quand il veut.
Je lui laisse la liberté
d'être comme il était avant et de pouvoir sortir. Et lui, des efforts pour rester avec moi.
Ouais, je passe des soirées beaucoup plus calmes. C'est la première fois de ma vie que je regarde des DVD sans faire quelque chose en même temps.
Non, les DVD, ça n'existe plus.
Non, oui.
Netflix.
Quand on regarde, attends, on va être moderne. Fais comme si t'étais moderne. Quand on regarde Netflix sans.
TikTok maintenant.
Oui, alors non, on n'est pas assez moderne.
Mais il est plus âgé que moi. Hein.
Et oh, calme-toi.
Du coup, j'ai l'impression, en écoutant Cyril, qu'il y a ce côté peut-être apaisement que Thomas a pu t'apporter. Et ce que tu disais sur la confiance, je trouve ça hyper beau, parce que l'idée que le couple peut te permettre à chacun de prendre confiance en lui, c'est une belle,
Belle idée. Pour moi, c'est vraiment l'intérêt du couple, c'est aussi retrouver ton alter ego qui va t'apporter peut-être les pièces du puzzle qui te manquaient et t'apaiser. Voilà, moi c'était aussi c'est aussi ça que j'ai trouvé dans Thomas, quoi. C'est une petite pièce de puzzle et en plus c'est un jeu, donc ça marche bien.
Toujours le côté ludique.
Le côté ludique, c'est important. Ouais, le créatif et ludique.
On est toujours dans le jeu.
Oui, okay. C'est vrai. Souvent.
Il y a un truc aussi qui évolue pas mal en général, parce que c'était toi, Thomas, qui disais que au fil d'une relation, on évoluait individuellement et à deux. Moi, il y a une question que je pose toujours au couple que j'invite dans le podcast, c'est la question de la sexualité, de leur rapport à la sexualité, de comment elle a évolué, comment ce rapport a évolué depuis qu'ils sont ensemble. C'est une question vaste et ouverte. Oui.
Très large. Non, on s'est rencontrés sur la sexualité. Donc, en plus, on va dire qu'au départ, c'était plutôt sur les chapeaux de roue.
On a commencé très fort, on va dire. Donc, forcément, ça ne pouvait qu'aller en.
Et puis, c'est
en
vrai.
Scalement, et tant mieux.
Et c'est vrai que, bah, au fur et à mesure qu'il se tisse des choses entre la sexualité, ben, peut-être que c'est un peu moins, mais. Ouais, ou différemment, ouais. En tout
différemment,
cas.
Différemment. Et puis, beaucoup plus de tendresse, du coup, qui est apportée à la relation, au final.
Et est-ce que ça s'est fait de manière fluide ou est-ce qu'il y a eu des moments où ça a créé des questions chez l'un ou chez l'autre de se dire ah bah tiens c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on est peut-être moins
on s'est quand même passionné, ouais, on s'est questionné,
on l'a posé une ou deux fois à savoir si c'était un problème ou pas et on s'est dit que ça l'était pas donc ça a continué avec un rythme peut-être moins effréné mais en tout cas sans que ce soit tant que ça un problème.
Ouais, non, c'est pas tant un problème que ça, puisque et c'est pas quelque chose qui revient dans nos conversations ni de disputes, même si on l'a peut-être tous dans un coin de la tête en se disant ah on pourrait peut-être le faire un peu plus, mais
c'est pas un truc qui fait souffrir l'un ou l'autre, c'est plus un questionnement
ouais,
qui reste
oui,
un peu
plus global, ouais.
Ok,
c'est ça.
Ok, ça marche.
Mais on peut en parler.
Oui, est-ce que vous en parlez
nous,
facilement,
librement, ouais. Sans que ce soit problématique.
Oui, c'est pas, on n'est pas très tabou là-dessus puisque
vu la manière dont on s'est rencontrés.
Bah, ouais, oui, ça c'est
pourrait,
vrai.
Ça,
c'est
oui,
sûr,
ça pourrait le devenir.
Ça part, pourrait ouais. Le devenir si justement le côté tendresse et sentiment. Si t'es une personne qui est très qui déconnecte vachement les deux, oui. Le fait de les reconnecter, ça peut créer des tabous sur l'un ou sur l'autre. Oui. Ok, super intéressant. Ça fait presque une heure qu'on discute ensemble, donc on arrive bientôt à la fin de l'épisode. Il y a deux questions que j'aime bien poser à la fin. La première question, c'est qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Quels sont vos projets ensemble?
Alors les projets, on en a beaucoup, mais je pense que notre projet le plus présent à l'heure actuelle, c'est avoir un enfant ensemble. Donc c'est fonder, même si on est déjà une petite famille, fonder une famille plus large. Donc c'est notre voilà, c'est un peu notre rôle du moment, comment on se positionne et comment on pourrait faire pour
en
y
fait,
accéder.
C'est une question sur laquelle on se rejoint aussi beaucoup, c'est qu'on a tous les deux vraiment un désir d'enfant, que dans notre situation, c'est pas si simple. Donc là, on a été quand même dans une phase où on a exploré pas mal les possibilités.
Oui, on s'est demandé quel était l'axe qui nous convenait le mieux et qu'on pouvait potentiellement avoir, donc entre l'adoption, la GPA à l'étranger ou la coparentalité.
Alors, est-ce qu'on peut juste donner des définitions pour éventuellement des auditeurs ou auditrices qui ne seraient pas très familiers
Alors,
avec le sujet?
La GPA,
gestation pour autrui.
La gestation pour autrui, donc c'est-à-dire que c'est surtout au Canada et aux États-Unis où on peut, par le biais d'une mère porteuse, accéder à la parentalité en tant que notamment deux hommes, puisque nous n'avons pas d'utérus.
Et du coup, la GPA en France n'est pas autorisée, mais par contre, aux États-Unis et au Canada, c'est tout à fait légal, voilà. Et vous avez, il y a un acte de naissance après, disons que vous êtes les parents de cet enfant.
Exactement.
Et d'ailleurs, on peut aussi préciser que c'est pas forcément l'option qui nous correspond le mieux.
Okay.
On l'a abordé, on l'a évoqué, mais c'était pas forcément celle pour qui on se ressemblait, enfin qui nous ressemblait le plus, ou en tout cas où on se retrouvait. Et
Je précise juste du coup pour les auditeurs et auditrices qu'on a un épisode d'Histoire de Daron avec deux darons qui ont fait une GPA au Canada, je crois, qui viennent en parler à Fabrice. Donc je mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent en savoir plus.
Très bien.
Mais et donc on vous va l'écouter nous aussi parce que ça nous intéresse. Ça nous intéresse beaucoup. Ouais. C'est vraiment
c'est vrai qu'on se rend
des réflexions
du moment en fait. Donc, même si de prime abord c'est pas la solution vers laquelle on a envie de se tourner, ça on reste ouvert pour l'instant. On n'a pas encore
parce que même l'adoption option aussi, quand on fait le pour et le contre, on se dit, bah, alors il faudrait qu'on se marie, même si c'est des choses qu'on a évoquées, même si c'est pas un but en soi pour nous, mais évidemment qu'on y a pensé. C'est surtout le parcours du combattant de l'adoption, surtout pour deux hommes en France, c'est encore plus compliqué. Donc,
Il y a eu quelques adoptions depuis la loi sur le mariage pour tous, mais très très peu. Ouais.
Et du coup,
la dernière option.
L'option qui nous conviendrait le mieux et qu'on est en train d'explorer actuellement, c'est la coparentalité. Nous avons discuté avec Thomas et nous avons rencontré quelqu'un avec qui on envisage potentiellement de le faire. Donc c'est aussi quelque chose de long parce qu'il faut se mettre d'accord, il faut être certain parce que c'est un engagement à vie.
Le principe de la coparentalité, juste pour vous rappeler, c'est de trouver soit un couple de femmes, soit une femme seule qui aurait un désir d'enfant et du coup d'avoir un enfant ensemble qui serait après en garde alternée.
Là en l'occurrence, on peut le dire, on a une amie qui est lesbienne, qui elle pour l'instant n'est pas en couple et qui a un désir très fort d'enfant aussi, donc qui est en train de, au même titre que nous, d'étudier la possibilité de le faire. Après d'être amie à se lancer dans un projet si important, il y a pas mal d'étapes à franchir.
Et c'est pour la vie, tu le disais.
Le centre LGBT propose des chartes de coparentalité où ce sont des choses qui sont uniquement, c'est de l'oral, parce qu'il n'y a rien de concret au niveau juridique, mais qui peuvent poser les bases, encadrer un petit peu les étapes de cette coparentalité qui est en fait en somme une famille nucléaire, comme on en voit beaucoup, comme des parents divorcés qui ont une garde alternée. C'est ni plus ni moins quelque dans l'état d'esprit, et sauf que là ça se fait en bonne intelligence, donc c'est encore plus facile, on va dire.
Et sauf qu'il y a cette dimension légale qui fait que pour l'instant c'est pas possible d'avoir d'avoir plus de deux personnes sur un acte de naissance et d'avoir l'autorité parentale quand on est trois ou quatre. Et donc ça implique que certains des parents n'aient pas de reconnaissance légale de leur autorité parentale. Exactement. Et de leur lien avec
leur enfant. Comme dans un couple, ce qui se fait en bonne intelligence à un moment, un instant T, peut déborder vers autre chose à d'autres moments de la vie pour bien des raisons. Donc du coup, il y a quand même
un aspect encadrement
juridique qui est quand même important
et
qui manque un peu à l'heure actuelle.
Il y avait un super documentaire sur Arte, sur deux couples, un couple d'hommes et un couple de femmes aux Pays-Bas qui avaient eu deux enfants en coparentalité. Je lui mettrai aussi le lien dans la description parce que vraiment j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Et eux, ils menaient un combat aux Pays-Bas pour faire reconnaître la possibilité d'avoir plusieurs parents, enfin d'avoir quatre parents en fait sur les actes de naissance de ces deux enfants.
Parce que là, concrètement, si nous on faisait ça, il y aurait trois parents dans l'histoire et dont un qui n'a aucun droit légal.
Absolument.
Et on en a conscience, et après, on n'a pas décidé de comment ça allait se passer, mais il faut l'assimiler déjà pour nous. C'est aussi compliqué de se dire que tu élèves ton enfant et que tu n'as aucun droit légal, tu n'es pas reconnu comme parent en tout cas. Donc évidemment, tu l'es dans les faits, dans la vie, mais aux yeux de la loi, tu n'es rien.
Et ça, aux yeux de ton enfant, tu l'es. Mais...
Évidemment, heureusement, c'est bien le plus important, et de la famille et des proches, mais aux yeux de la loi, tu ne l'es pas, et alors que bon, c'est quand même un comble.
Mais enfin voilà, pour revenir à la question, notre
c'est ça, projet
du moment, ce serait celui-là, en plus de changer d'appartement.
ça va avec, on va dire.
Ça va avec.
Ok. Ça marche. Super, vous nous donnerez des nouvelles.
Bon, on viendra vous en parler.
Avec grand plaisir. Et alors du coup, ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a un couple réel ou fictif qui vous inspire ou auquel vous pensez ressembler ?
Alors ça, c'est dur, ça.
C'est dur, et on s'est posé la question, parce que ça, on peut le dire, c'est une question qu'on a eue...
Oui, j'envoie une liste de questions.
Sur laquelle on a eu le droit de réfléchir avant. Et du coup, on en a parlé et on n'avait pas envie de proposer finalement un couple d'hétéro puisque ça pouvait pas nous ressembler complètement. Et après, du coup, on a cherché dans les couples homo et finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas tant que ça qui représentait quelque chose ou qui était représenté médiatiquement ou de manière fictive dans les séries ou autres.
Ou même dans notre entourage, on ne reconnaît pas forcément d'autres personnes.
Du coup, on en est arrivé à la conclusion qu'on était,
on était unique.
On était notre couple et que, ben, et que peut-être d'autres couples pourraient s'identifier à nous plus tard, mais que pour l'instant, on n'arrivait pas effectivement à s'identifier à des couples célèbres, connus, fictifs.
Non, on est une page blanche.
Non, mais cette question de la représentation, t'as raison, ça le met en lumière, quoi.
Exactement.
De la représentation des couples homo.
Il
n'y
a pas assez de diversité dans la représentation des couples homo, en tout cas.
Parce qu'autant dans les couples hétéros, t'as des milliers de séries où tu peux aller piocher un couple en disant bah nous on est un petit peu comme ci, un petit peu comme ça, mais effectivement c'est plus compliqué.
Les homos finalement ils finissent toujours par mourir très vite.
Ou par.
Dans des conditions abjectes.
Ou par. Oui, c'est vrai. Ou par se séparer.
Ou à jamais pouvoir concrétiser le fait d'être en couple aussi.
C'est vrai, c'est
beaucoup été fait. Donc.
Parce que j'allais citer Les crevettes pailletées du coup, qui est un film qui m'a beaucoup touchée personnellement, mais même dedans je cherchais, j'étais là, mais en fait il y a pas de couple où ils sont heureux, il y a les couples des parents, mais les couples des deux pères
finalement ils choisissent son couple plutôt que que les potes,
mais non, on n'a pas pu choisir ce couple là non plus parce qu'on n'a pas encore réussi à concrétiser le projet d'enfant.
Et ben voilà, on vous met des bâtons dans les roues, pas de représentation, difficulté à accéder à la parentalité,
c'est ça.
Mais en revanche, c'est un film qu'on aime bien aussi et ce qui est directement inspiré de l'équipe de Waterpolo de Cyril.
Ok. Ah oui, c'est ça. C'est une vraie équipe qui a inspiré
c'est mon équipe de waterpolo et le réalisateur est un des joueurs, un ami et un des joueurs de mon équipe de waterpolo.
Cédric Le Gallo.
Exact.
Super. Bah pareil, je mettrai un lien dans la description parce qu'on en a. Mademoiselle était partenaire du film sa sortie.
Ouais,
donc on en a parlé sur le site.
On attend le 2 que Cédric est en train d'écrire.
Ah, trop bien. Bon, ben on a hâte. Merci à tous les deux d'être venus.
Avec grand plaisir, merci beaucoup.
Ouais, c'était super.
Pareil. Tout pareil.
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode d'Histoire de couple. S'il t'a plu ou fait réfléchir, n'hésite pas à en parler autour de toi et à lui mettre plein d'étoiles sur ton appli de podcast préféré. C'est ce qui permettra au reste du monde de le découvrir. Pour ne rater aucun des contenus du magazine Rocky, le mieux c'est encore de t'abonner à notre incroyable, que dis-je, exceptionnelle newsletter. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Si tu as toi-même une histoire de couple un peu spéciale et que tu as envie de venir nous la raconter avec ton ou ta partenaire, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse suivante. salut@rockymag.com. Salut, ça s'écrit S-A-L-U-T et Rockymag, R-O-C-K-I-E-M-A-G. Et sinon, en attendant le prochain épisode, tu peux aller découvrir les deux autres podcasts du magazine, Histoire de Daron et Rocky à écouter. D'ici là, je te souhaite des journées remplies d'amour et d'eau fraîche, ou de grenadine si c'est plus ton truc. À bientôt!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.